Radio Okapi.
Le journal Bibi Moukonkole.
Okapi.
De la Journée internationale des droits de l'homme, la directrice générale de l'UNESCO a rappelé l'action de l'UNESCO sur tous les plans en vue de doter chacun des moyens de défendre ses propres droits et ceux des autres. Dialogue national inclusif, les parties prenantes à la plénière ont validé leur mandat et adopté un code de bonne conduite. Ce code proscrit notamment tout propos de nature à inciter à la haine. 20 millions de dollars, c'est le montant pour la construction au cours du bâtiment qui abritera le musée national à Kinshasa. Information donnée par l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC. Merci d'écouter Radio Capi. L'humanité célèbre ce samedi 10 décembre la Journée internationale des droits de l'homme. Le thème choisi cette année est « Défendez les droits de quelqu'un aujourd'hui ». À Kinshasa, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme organise la cérémonie solennelle de cette commémoration ce samedi à la maison communale de l'Ntsélé à Kinkolé. Par ailleurs, dans un message diffusé en rapport avec cet événement, la directrice générale de l'UNESCO indique que cette commémoration est une occasion pour tous de renouer avec l'esprit de la longue lutte de l'humanité en faveur des droits et de la dignité. Jean-Désiré Kanyaman donne l'essentiel du message de Irina Bokova.
Aujourd'hui, partout dans le monde, des millions de femmes et d'hommes abandonnent leur maison et risquent leur vie et celle de leur famille en quête d'un avenir meilleur, affirme la directrice générale de l'UNESCO dans son message. Irina Bokova rappelle aussi ces déplacements de populations sans précédent qui frappent des sociétés dans chaque région. Selon elle, ce sont les plus pauvres et les plus marginalisés qui continuent de souffrir partout. La directrice générale de l'UNESCO qualifie cette situation d'inacceptable et appelle les gouvernements et la communauté internationale à agir. Que chacun de nous s'élève pour défendre les droits d'autrui, lance-t-elle. D'après elle, c'est cela l'essentiel pour la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030 pour concrétiser la promesse de ne laisser personne pour compte. Irina Bokova rappelle par ailleurs que l'UNESCO agit sur tous les plans en vue de doter chacun, homme ou femme, des moyens de défendre ses propres droits et ceux des autres. Et de conclure, je cite, « La pleine réalisation des droits de l'homme suppose l'accès de tous à l'éducation, les plus puissants moteurs de développement humain, de respect et de tolérance. » Fin de citation.
Et puis hier vendredi 9 décembre, le monde a célébré la journée internationale de la lutte contre la corruption. L'ONU a retenu comme thème cette année « Unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité ». Ici à Kinshasa, l'initiative anticorruption pour le secteur privé a organisé un forum en collaboration avec Vodacom Congo et quelques membres de la FEC. Au menu, les efforts fournis pour endiguer ce fléau en RDC. Un reportage de Nadine Foulansimba rendu par Michel Kifindangoy.
La corruption touche tous les secteurs, publics comme privés. En RDC, ce fléau gangrène la vie sociale et toute l'économie. Ainsi, depuis son existence il y a 4 ans, l'initiative anticorruption pour les secteurs privés en a fait son cheval de bataille. Mais que peuvent faire les secteurs privés pour contribuer à la lutte contre la corruption? Réponse avec Chantal Kanyondo, présidente de l'initiative anticorruption pour les secteurs privés.
Premièrement, la sensibilisation aux méfaits de la corruption dès les études primaires, l'implémentation des valeurs d'éthique dans toutes les petites, moyennes et grandes entreprises, des lois modernes et faciles à appliquer. Enfin, un système de sanctions positives et négatives.
Parmi les efforts mis en place pour enrayer ce fléau, les entreprises privées ont élaboré un code de conduite des affaires en RDC. Monsieur Nsimba, en charge de la conformité et éthique chez Vodacom, a partagé l'expérience de son entreprise en matière de lutte contre la corruption.
La lutte contre la corruption est au cœur de notre programme éthique. Et donc en interne, nous avons mis en place une série de dispositifs.
Tant que les ambassadeurs et les sénats ne croisent pas les bras, ils contribuent chacun dans son secteur pour enrayer la corruption en RDC.
Toujours en rapport avec la célébration hier vendredi de la Journée internationale de lutte contre la corruption, la section de l'Association des parlementaires africains de lutte contre la corruption a organisé une conférence au Palais du Peuple sous le thème « Unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité ». Les participants ont examiné les nombreux défis à relever pour éradiquer la corruption en RDC. Pour le député Oswald Mukingi, membre de la section RDC de ce réseau des parlementaires, il faut passer aux actes étant donné connaît que les lois, les règlements et les structures fonctionnelles en RDC n'ont pas contribué à la réduction de ce fléau. Il est au micro de Jean-Désiré Kanyama.
C'est un jour mémorable de la sensibilisation où tout le monde doit lutter pour éradiquer la corruption, promouvoir les bonnes pratiques de la bonne gouvernance, afin de conduire notre pays à l'émergence à l'horizon 2030, comme le stipule l'objectif 16 du programme mondial de développement durable à l'horizon 2030. En conclusion, combattre la corruption, bannir les antivaleurs égale corruption zéro égale 100% développement, c'est-à-dire construire les routes, payer les salaires des agents de l'État, les lois et les règlements existent. Les structures pour réprimer la corruption existent. Tout cela, ça ne fait pas réduire la corruption. Maintenant, il faut passer aux actes, car c'est trop. Trop, c'est trop. Quand tu visites les prisons de la République démocratique du Congo, les corrompus sont absents. Nous sommes tous victimes de la corruption et il faut la combattre pour l'émergence, pour le développement du pays.
Ces assises ont été organisées en collaboration avec l'Observatoire de la corruption et de l'éthique professionnelle, le cabinet du conseiller spécial du chef de l'État en matière de la bonne gouvernance, la cellule technique d'impunité du ministère de la Justice et l'Association africaine de lutte contre la corruption. Au deuxième jour des travaux en plénière d'hier vendredi au centre interdiocésain à Kinshasa, les parties prenantes au dialogue national inclusif ont validé leur mandat et adopté un code de bonne conduite élaboré par la CINCO. Ce code proscrit notamment tout propos de nature à faire mal aux autres, à inciter à la haine. Les travaux ont été par la suite suspendus et reprendront mardi pour permettre au prélat de prendre part à la prise de possession canonique du vice-président de la CINCO, Mgr Fridolin Ambongo, nommé archevêque de Mbandaka. Reportage Jeff Ngoy.
La suspension des travaux sera mise à profit, selon Félix Tshisekedi, chef de la délégation du rassemblement, à affiner la connaissance des dossiers par les parties prenantes. Mais la question de la décrispation politique demeure une des revendications de cette plateforme, notamment la fin des poursuites à l'encontre de Moïse Katumbi pour lui permettre de se joindre à ses collègues au dialogue.
Tout ça fera partie de nos discussions, on verra bien, je ne peux pas anticiper sur ce qui va se passer. Nous avons plusieurs revendications que nous pensons faire passer et nous sommes optimistes là-dessus.
Notamment
le 19 décembre, c'est la fin du mandat de quelqu'un.
Selon Vital Kamerhe, la libération des prisonniers politiques fait partie des 6 points de divergence à débattre pour l'élargissement de l'espace politique et ils ne sont pas individualisés.
Nous allons rester strictement dans le cas des 6 points de divergence qui avaient été relevés par la CINCO et parmi les 6 points, il y a un point relatif à la décrispation politique. Et donc c'est un sujet très complexe, bien sûr, qui va concerner la libération des prisonniers politiques et d'opinion.
La revendication d'un quota supplémentaire du Front pour le respect de la Constitution a trouvé gain de cause, d'après le président de la CINCO, qui confirme la participation de cette composante à la prochaine plénière. Le Front demandait d'être représenté par 3 délégués au lieu de 2, tenant compte de son poids politique.
Dans le même chapitre, sachez que les professeurs chefs de travaux et assistants catholiques œuvrant au sein des institutions de l'enseignement supérieur universitaire de Kisangani soutiennent les efforts de médiation de la CINCO pour aplanir les divergences de vues entre la majorité au pouvoir et l'opposition congolaise. Ils l'ont fait savoir jeudi au cours d'un message rendu public après l'ouverture à Kinshasa des travaux du dialogue politique inclusif. Écoutons à ce propos le professeur Jean-Pierre Lifoli Balia, président de l'association des professeurs catholiques de Kisangani. Il est au micro d'André Kitenge.
Les enseignants catholiques du supérieur et universitaire saluent les résultats produits à ce jour par le travail de médiation des évêques catholiques, lequel contribue grandement à apaiser la tension politique qui règne au pays. Ils encouragent les évêques à aller de l'avant jusqu'au résultat final attendu par le peuple congolais, le Saint-Père et l'ensemble de la communauté internationale qui souhaitent vivement la paix, l'unité et la stabilité de la RDC. Les enseignants catholiques lancent un appel aux intellectuels, acteurs politiques, chrétiens catholiques, personnes de bonne volonté et à tout le peuple congolais de se ranger comme un seul homme derrière les évêques catholiques et de soutenir leur action de médiation par des prières pour que l'éternel Dieu Tout-Puissant vienne en aide à la RDC, à son peuple et à ses dirigeants en ces moments difficiles.
20 millions de dollars, c'est le coût de la construction au cours du bâtiment qui abritera le musée national entre le palais du peuple et le centenaire de l'église de Christ au Congo. Il s'agit d'un projet financé par la Corée du Sud. Selon son ambassadeur en RDC qui a livré cette information vendredi au cours d'un dîner organisé en sa résidence avec des journalistes de quelques médias nationaux, il s'agit du plus grand projet sud-coréen en République démocratique du Congo. Les propos de l'ambassadeur Ki Chang-Kwon traduit au micro d'Honoré Misenga Kalala.
The biggest curiosity of the projects in DR Congo would be construction of national museum.
Le plus grand projet de la Corée du Sud ici en RDC serait certainement la construction du musée national. Le mois de juillet dernier, nous avons lancé la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction et cette cérémonie a été présidée par lui-même, le président Joseph Kabila. C'est vrai que la RDC a un musée le long du fleuve Congo. Ce musée est très petit parce qu'il a été construit il y a longtemps par le gouvernement belge. Et c'est depuis 2011 que la RDC a fait cette demande de construction du musée national et le projet en soi arrive à la hauteur de 20 millions d'euros.
D'après le diplomate sud-coréen, s'il n'y aura pas de facteurs perturbateurs, les travaux de construction de ce musée prendront fin en 2018. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis.
Okapi. Okapi. Radio. Okapi.